another song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, Galère Galère, émission Livres et Amis du mercredi 2 février, avec Dominique à la présentation, Françoise à la lecture et Sidi à la technique, avec aussi toujours le suivi et le soutien amical d'Odile. Nous lui rendons visite, bien sûr, et nous parlons beaucoup de l'émission. Nous vous avions annoncé pour aujourd'hui le Polygone étoilé de Katab Yassin. Mais la lecture et donc le voyage en Algérie ont dû être légèrement différés. Aujourd'hui donc, une autre suggestion d'Odile, un livre passionnant qui nous permet de poursuivre notre chemin dans la vraie vie. En fait, la vraie vie de Joseph Pontus avec À la ligne, sous-titré Feuillet d'usine, qui nous rend compte de sa vie d'ouvrier dans les conserveries puis dans les abattoirs de Bretagne, dans la région de l'Orient. À la ligne est paru en 2019 et a remporté un grand succès à la fois critique et public. Son auteur a donné de nombreux entretiens et, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par lui donner la parole. À l'antenne, Joseph Pontus donc. Tendez l'oreille, le volume n'est pas toujours complètement satisfaisant.
La ligne Feuillet d'usine raconte l'histoire d'un ouvrier intérimaire contraint d'embaucher dans les usines et les abattoirs en Bretagne. Enfin, ça raconte mon histoire d'intellectuel qui a tout quitté pour se marier en Bretagne et donc qui ne trouvait pas de travail dans son secteur originel d'activité, le travail social. Et donc, j'ai dû pousser la porte des agences d'intérim. Et je me suis pris l'usine comme une déflagration physique, mentale. Et pour tenir le coup, j'ai commencé à écrire pour me souvenir de ce que j'ai enduré. Et c'est un décor nocturne, industriel, marqué par le bruit des machines, par l'odeur de la mort, des poissons, des carcasses de vaches, et par la solidarité ouvrière, par des petits chefs, par des difficultés physiques, par des moments d'humour, par des chansons, par des souvenirs de livres et de grands auteurs qui m'aident aussi à tenir sur mes lignes de production. Il y a beaucoup de citations. Il y a effectivement beaucoup de citations dans le livre d'auteurs que j'affectionne particulièrement. Donc ça peut être Apollinaire, ça peut être Céline, ça peut être Sandrars, ça peut être Aragon. Parce que quand on travaille pendant 8 heures de rang sur des chaînes de production, enfin des lignes de production, on dit maintenant, faut trouver un moyen pour... Faut trouver à quoi se raccrocher, en fait. Et donc, moi, ma façon de me raccrocher au réel, c'était la littérature. Je repense à Dumas, qui est un des une de mes idoles, en fait. J'ai dû lire Les Mousquetaires une bonne dizaine de fois, enfin, toute la trilogie. Hein. Les Mousquetaires, 20 ans après, et Bragelonne. Je rêve de m'échapper de l'usine comme Dantès s'échappe du château d'If. Sauf qu'on a aussi un boulet au pied quand on est à l'usine et il n'y a pas de Méditerranée dans laquelle se jeter. Et donc ouais, les souvenirs de lecture, ça aide à tenir. Effectivement, oui, bien sûr, il y a des autres envies d'écriture qui sont très très présentes. On ne va pas s'arrêter là. Et ce que ça a changé, non, c'est que c'était absolument vital d'écrire ce livre. Si j'avais pas écrit à la suite de mes journées de travail, je serais devenu complètement cinglé, piégé par la machine, quoi, dans tous les sens du terme. L'écriture, c'était au retour des journées de travail. Il fallait immédiatement écrire après la journée de travail, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'il y a à faire, malgré le besoin de repos. Parce qu'on est tellement fatigué quand on bosse en usine que si on reporte un texte au lendemain ou au week-end, on aura oublié toutes les sensations vécues dans la journée. Donc c'est vraiment une astreinte à une écriture quotidienne qui prend du temps sur le reste de la vie. Mais l'écriture, c'est la vie. Enfin, pour moi, c'était la vie. La possibilité de s'échapper par le haut. Du quotidien ouvrier.
Joseph Pontus vous a à peu près tout dit, en particulier comment il se retrouve, alors qu'il a une formation et une compétence de travailleur social, ouvrier intérimaire dans des usines agroalimentaires de Bretagne. Et là, commençons par ces auteurs qu'il aime. Et d'abord, Guillaume Apollinaire, qui écrit en 1915 du front, 100 ans avant Joseph Pontus de Saligne. Guillaume Apollinaire qui écrit donc « C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter ». Et Joseph Pontus nous écrit à la ligne, à la page, tout ce que l'ouvrier peut supporter, simplement pour gagner sa vie. À la ligne, oui, c'est ce que dit le titre, puisqu'on ne dit plus « à la chaîne », mais « à la ligne de production ». À la ligne aussi, parce que le livre est écrit comme un très long poème où les lignes s'interrompent ou se chevauchent, comme les gestes de l'ouvrier au travail se succèdent, s'accumulent, saccadés, interrompus, repris, en fonction du rythme des machines et de la ligne. Écoutons donc le texte, son vécu, à l'usine de Poisson d'abord.
En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution. Non, l'usine, c'est pour les sous, un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner sur le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur, alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non, le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous ? Mon boulot, casser des cailloux, de la merde. J'ai plus de dos, un truc de chien, devrait pas être permis, autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier, même question. Je bosse, j'ai une famille à nourrir, c'est un peu dur. C'est comme ça et c'est déjà bien d'avoir du boulot, c'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pullover, un sweatshirt à capuche, deux bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petite intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. bientôt. Nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées et langoustes. J'espère voir cette révolution. Gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà, qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette, il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit. J'ai rien vu, mais gaffe au chef s'il t'attrape. Depuis, je lousse des sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être à tout le moins une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je parle quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète. Écrivait en substance quand je ne sais plus quoi, dans je ne sais plus quoi, Barbé d'Orvilly. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divaguant dans mes pensées, seule déterminée. J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne. L'embauche. Ce ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche. 4 heures, 6 heures, 7h30 du matin, suivant le travail assigné. Le dépotage, soit les caisses de poissons à vider, le marayage ou l'écorchage, soit la découpe de poissons, la cuisson, soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée. Commencer à 16h, finir à minuit, ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est. Sans compter les heures de nuit, payer 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul, t'es 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot à quelques heures de la journée. Et puis quand tu rentres, à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates, tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil, peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalés, à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent, dans un demi-sommeil de réveil. Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger, comme lorsque l'on s'endort. Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent. À la ligne. C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause, quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet. Absolu, existentiel, radical, les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors, tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes. Même si nous savons qu'il n'y a pas de vrai monde, mais peu importe. Apollon a choisi Delphes comme centre du monde, et ce n'est pas un hasard. Athènes a choisi l'agora comme naissance d'une idée du monde, et c'est une nécessité. La prison a choisi la prison, que Foucault a choisi. La lumière, la pluie et le vent ont choisi les îles. Marx et les prolétaires ont choisi l'usine. Des mondes clos, où l'on ne va que par choix, délibéré, et d'où l'on ne sort, comment dire, on ne quitte pas un sanctuaire indemne. On ne quitte jamais vraiment la tôle. On ne quitte pas une île sans un soupir. On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. La débauche. Quel joli mot! Qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré. Mais comprendre, dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson, mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courent sur 2 jours, 1 semaine tout au plus. Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche, j'attends la débauche, j'attends l'embauche, j'espère. Attendre et espérer. Je me rends compte qu'il s'agit des derniers mots de Monte Cristo. Mon bon Dumas, mon ami, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer ?
Attendre et espérer, oui, à l'usine de poisson. À l'usine de poisson où, comme il nous l'a dit, il y a des variantes. Les crevettes, la marée et puis le dépotage. Le dépotage, il va nous l'expliquer, c'est un peu la tranquillité. C'est un peu mieux que le reste.
Les dépoteurs, c'est un peu comme les ouvriers du livre de la CGT. Seuls, un peu planqués, avec des avantages considérables par rapport au reste des ouvriers de l'usine. On peut se permettre d'arriver 5 minutes en retard, à l'embauche à 4 heures du matin. La température de la salle de 8 degrés Celsius semble plutôt douce. On bénéficie de 2 pauses réglementaires plutôt qu'une imposée par le chef. Petite pause de 10 minutes, clope café à 6 heures, pause de 30 minutes à 8h30, café clope. Le boulot n'est pas si dur, répétitif. Vider des caisses de 25 kg de poissons pour remplir d'autres caisses de 25 kg. Certes, on dirait les shaddocks, mais c'est l'usine et ça fait des muscles. La machine ne tombe jamais en panne et les poissons changent. Des lieux, des merlans, des lieux noirs et des lieux jaunes, des sabres, des aigles fins, des lottes et surtout et encore des lieux de toutes sortes. Ça évite la répétition de la monotonie. Aujourd'hui, les ouvriers du dépotage étaient en grève. Non, les autres de l'usine, preuve du privilège des avantages acquis. Tant mieux pour eux ces avantages qu'ils ont dû acquérir de haute lutte. À l'embauche, nous étions que 2 intérimaires. Des gars sont venus nous prêter main forte après la première pause. On a dépoté des caisses et des caisses de sabre et de merlan. On a fini le travail. En écrivant ces mots, je continue à dépoter des lieux communs. Entre quelques tonnes de sabre, de grenadiers et de lieux. Aujourd'hui, j'ai dépoté 350 kg de chimère. J'ignorais jusqu'à ce matin qu'un poisson d'un tel nom existât. Mes chimères sont arrivées après la pause. Drôle de poisson, avec 2 belles nageoires en bas du ventre, pouvant ressembler à des ailes. Peut-être que leur nom vient de là ou non. Ça a suffi à mon bonheur de la matinée, me dire que j'avais dépoté des chimères. Ce 31 après-midi, je passe à l'agence d'intérim récupérer mon acompte, vu que nous sommes réglementairement payés le 11 du mois suivant. L'acompte s'élève au maximum à 75% du temps travaillé. Les ressources humaines de l'usine n'ont pas encore validé mes horaires de ma dernière semaine de travail, soit payé 50% de ce que j'escompte. Une chimère de plus.
Oui, chimère, chimère. Comme le dit l'auteur, le boulot n'est pas si dur. La vraie difficulté, finalement, c'est les horaires décalés qui, en plus, pour les intérimaires, changent tout le temps puisqu'ils servent de bouche-trou sur les lignes en fonction des besoins. Alors, le froid, la nuit, la fatigue permanente et les horaires décalés. Et un vrai plaisir, un vrai changement en tout cas, quand l'emploi change, quand on retrouve l'emploi pour lequel on était qualifié.
J'ai trouvé une mission d'un petit mois dans mon secteur originel d'activité. Et pour la première fois de ma vie, je serai chef. Enfin, de même qu'on ne dit plus ouvrier, mais opérateur de production. Je ne serai pas chef, mais personne ressource. En l'occurrence, d'une dizaine de séjours de vacances adaptés pour personnes en situation de handicap. On ne dit plus handicapé, ni encore moins mongolitos. Sur un vaste territoire allant de Paris à la Belgique. La voiture de fonction, les hôtels et les notes de frais quand tout va bien. La route à n'en plus finir si un problème survient, à 600 bornes de là où je me trouve. Mais là n'est pas l'histoire. Aujourd'hui, j'avais une formation dans un bled paumé du Kerbrez, le centre du trou du cul du monde, de la Bretagne, pour préparer ma chefitude et rencontrer mes futures équipes de responsables de séjour et d'animateurs. Autant dire que passer du rythme de l'usine à celui des travailleurs sociaux en une nuit C'est comme passer d'une certaine vision du travail à une autre vision du travail, au sens le plus marxiste du terme. Le café, la clope, une pause le café, une clope, échanger avec les collègues, la clope, un café, tout ça une pause. Les crevettes, les bulots, les crevettes, les cartons, les autres cartons, encore ces foutues crevettes, attendre que le chef te donne ta pause, reprendre les crevettes, les bulots, les crevettes, les crevettes. Dans les deux cas, la subordination et la vente de ma force de travail. Ma place de semaine d'ouvrier soumis, ce samedi, celle de futur chef induit. La chefitude chez les Mongolitos, c'est fini. C'était un peu 3 semaines de PVT.
Comme on dit au Québec.
15 jours de permis, vacances, travail. J'ai fait de la route, beaucoup. Je pensais aux conscrits des 100 villages d'Aragon, des chapelets de clochers et de noms mélodieux de pays égrenés. De la Normandie à la Belgique, en passant par le Nord-Pas-de-Calais, je n'arriverai jamais à dire Hauts-de-France. J'en ai vu des bleds et des routes, moins des gens. Dunkerque, Saint-Valery-en-Caux, Fécamp, Berck-sur-Mer, La Roche-Guyon, Étampes, Trouville, Verviers, Vestreau-Zebec et Ostende chez les cousins belges, Vétheuil, Vernon, Verneuil-sur-Avre, Beuvron en Auge. Une France de sous-préfecture, de places centrales avec des pavés et des maisons à colombages, des beffrois flamands, le souvenir des guerres, celle de 14, Passendal-la-Somme, Péronne, la course à la mer, Ypres, où je n'ai pas pu entendre la sonnerie aux morts quotidiennes, de 20 heures tous les cimetières anglais, canadiens, même indiens et maoris aperçus de loin, because la route à faire. Celle de 39 en Normandie, plutôt 44 donc. Faire la route, c'est presque aussi répétitif que trier les caisses, les poissons, les crevettes, mais forcément différent. Du boulot de chef avec les gens qui bossent pour des vacanciers handicapés. Je n'ai rien à en dire, inintéressant. De la route, guère plus. Des visites que je voulais faire, elles furent plus rapides qu'une blitzkrieg. Étretat, Giverny, Honfleur, carte postale où surnage des fleurs au jardin de Monet. Et les maisons Satie, un des plus beaux musées du monde, au monde, dont on m'avait tant rebattu les oreilles, à juste titre. Une poire qui vole, une chambre à Montmartre, un piano mécanique, un manège où tu pédales pour ouvrir une forme de parapluie géant. Ce matin, je suis passée à l'intérim en quête de mon chèque du mois dernier et d'un nouveau contrat. Bingo! 4 semaines de nuit dans une nouvelle usine à 20h30, de 20h30 à 5h30. Fini les poissons et les crevettes, mais non, les bacs, les caisses et les machines. Je rembauche avec joie, même si le stress de la nouvelle usine est déjà le regret de mes poissons et mes crevettes. Que vais-je produire? Je n'ai rien produit avec mes vacanciers handicapés. Eux, en vacances, qui le reste de l'année produisent dans des établissements d'aide par le travail, ils bossent pour des salaires adaptés, autant que leurs vacances, mais sont heureux et fiers. Certains me parlent de menuiserie et de coups de rabot incessants sur des meubles à travailler, d'espaces verts où l'on ramasse les feuilles mortes et où l'on arrose les plantes suivant la saison, de petites vis à mettre dans je ne sais quel composant. Dans ces moments, je les comprends intimement, mais n'ose leur dire que je suis de leur caste. Une place de chef, c'est une place de chef. Eux auraient sans doute compris. Mais non, messieurs,
mes subordonnés.
Mais non, mes subordonnés responsables de séjour ou animateurs. Lundi soir, à 20h30, je me vautrerai dans ma position d'opérateur de production. Soumis à ces chefs, je retrouverai des lignes et des chaînes qui sont autant de routes. Sans doute penserai-je à ces villes et villages de France dans l'usine comme je pensais à l'usine sur la route. Je serai un peu le conscrit d'Aragon. Ah, démon, démon que vous êtes, versez-moi des mots et des mots.
Des mots, oui, la pause d'été est terminée, la pause qui était un travail, mais le travail qui était une pause. Et chômage toujours dans le travail social, donc retour à l'usine. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien demandé. Mais quand un chef, à ma prise de poste, me demande si j'ai déjà égoutté du tofu, quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais avoir à égoutter seule et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit, égoutter du tofu, je me répète les mots sans trop y croire. Je vais égoutter du tofu cette nuit. Toute la nuit, je serai un égoutteur de tofu. Je me dis que je vais vivre une expérience parallèle dans ce monde déjà parallèle qu'est l'usine. Je pose le cadre. Il est 14h30. Je sors de ma nuit, m'étant couché vers 8h. Je dois embaucher à 20h30 et débaucher à 5h. Je commence à travailler, j'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra, presque comme une formule magique, sacramentelle, un mot de passe, une sorte de résumé de la vanité de l'existence du travail du monde entier, de l'usine. Je me marre. J'essaye de chantonner dans ma tête, il y a de la joie, du bon traînait pour me motiver. Je pense au fameux vers de Shakespeare où le monde est une scène dont nous ne sommes que les mauvais acteurs. Je chante du traînet en égouttant du tofu. Hélas, non, vous reculez de 3 poissons panés. Je pense que le tofu, c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétariens, je ne me connaîtrais pas ce chantier de fou de tofu. J'échafaude des contrepaix qui me semblent bien sonner. Égoutteur de tofu, fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kg. Mettre les sachets de 3 kg environ sur ma table de travail. Cutter, ouvrir les sachets. Mettre le tofu à la verticale sur un genre de passoire horizontale en inox d'où tombe le liquide saumâtre. Laisser le tofu s'égoutter un certain temps. Un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud pour son fût du canon. Qui se souvient encore de Fernand Reynaud et de ses sketchs qui semblent aujourd'hui si datés? J'essaie de me souvenir des sketchs de Fernand Reynaud en égouttant du tofu. Le 22 à Nières, la chemise lilas. Pourquoi tu tousses? Le fût du canon. Je me souviens que ma grand-mère adorait me les montrer à la télé quand j'étais gamin. Je repense à elle qui me manque. Je me souviens de Georges Perec, forcément. J'égoutte du tofu. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve, filme la cuve, la place dans un coin de l'atelier en attendant qu'elle serve à je ne sais quel plat cuisiné. Ce n'est plus mon chantier. De temps en temps, les grands sacs où j'entrepose mes déchets, cartons, sachets plastiques, je les emporte aux poubelles extérieures avec une transpalette. Ah, c'est bien ça, aller aux poubelles, ça change un peu. Il y a peu, dans mon ancienne usine, j'étais dépoteur de chimères. Ça claquait mieux quand même. Maintenant, égoutteur de tofu. Celui qui n'a jamais égoutté de tofu pendant 9 heures de nuit ne pourra jamais comprendre. Et merde. Et merde. Moi, vieux con, je sais, et pas toi. Il n'y a aucune gloire à en tirer. Pas de mépris pour les non-ouvriers. Le mépris. Je pense au chef-d'œuvre de Godard. J'essaye de me remémorer la scène de Camille par Georges Delerue. Musique qui irait bien là, je crois, dans cette ambiance. Qui irait si bien. Mais je n'y arrive pas. Silence. Les heures passent, ne passent pas. Je suis perdue. Je suis dans un état de demi-sommeil extatique, de veille paradoxale. Presque comme lorsqu'on s'endort et que les pensées vagabondent au gré du travail de l'inconscient. Mais je ne rêve pas, je ne cocharde pas, je ne m'endors pas, je travaille, j'écoute du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. J'égoutte du tofu, encore 3 heures à tirer, plus que 3 heures à tirer, il faut continuer. J'égoutte du tofu, je vais continuer, la nuit n'en finit pas. J'égoutte du tofu, la nuit n'en finit plus. J'égoutte du tofu, j'égoutte du tofu. J'en chie, mais à l'usine on se tait. Et c'est le week-end. Je ne sais pas dormir. À cette heure-ci, je devrais peut-être être sur ma ligne. Il devrait me rester 2 heures de boulot, 2 heures de boulot de merde, de chaîne, de ligne. C'est le week-end. Je devrais reconstituer ma force de travail, c'est-à-dire me reposer, dormir, vivre ailleurs qu'à l'usine. Mais elle me bouffe, cette salope. Je viens de sortir fumer ma clope à la maison. Je retrouve les gestes machinaux de la nuit à la pause. Tirer vite fait et allumer un mégot au mégot de l'autre. Je reprends après-demain, comme si c'était demain. commencer à préparer son rythme de sommeil, son rythme de vie que l'usine impose. Il faut y aller, il faut dormir, il faut... J'en chie de cette usine, de son rythme à la con, de ses trucs insensés à faire tous les soirs. Ne pas le dire, l'écrire. J'ai mal à mes muscles. J'ai mal de cette heure de pause où je devrais être, mais où je ne suis pas. En fumant ma clope chez moi, je suis encore à l'usine. Mais ça, on ne le dit pas. Car à l'usine, c'est comme chez Brel. Monsieur, monsieur, on ne dit pas. On ne dit pas. On ne dit pas, on écrit. Donc c'est ce que vient de nous dire notre auteur Joseph Pontus. On ne dit pas, et lui il écrit. Le cauchemar de celui qui travaille en usine se poursuit aussi pendant le week-end. Mais ça, en fait, on ne le dit pas. Alors Joseph, il écrit, et ses potes rockers, eux, enfin ses potes rockers, ils mettent ces mots en musique. Donc, le texte de Joseph Pontus mis en musique, on va l'écouter.
En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne.
Si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes.
On ne quitte pas un sanctuaire indemne, on ne quitte jamais vraiment l'atoll, on ne quitte pas une île sans un soupir, on ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. On ne quitte pas un sanctuaire indemne, on ne quitte jamais vraiment l'atoll. On ne quitte pas une île sans un soupir. On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel.
4 heures, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu. 4 heures, ouvrir les sachets. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve, dans un coin de l'atelier. Celui qui n'a jamais égoutté de tofu pendant 9 heures ne pourra jamais comprendre. Ne pourra jamais comprendre. Cette phrase comme un mantra, j'égoutte du tofu, j'égoutte du tofu. Je me répète cette phrase comme un mantra. Je serai des vôtres,
travailleurs de l'usine.
Je serai des vôtres,
travailleurs.
Semaine au bulot, odeur de mort, de rats crevés, de vases de pisse et de mauvais vin mélangé, macéré. Je n'y fais même plus attention.
Et l'usine es. Comment on va? À l'abattoir. Et je veux croire que ma guerre est jolie. Et je veux croire que ma guerre est jolie. J'écris comme je travaille. À la prochaine, petite intérimaire, on ne t'a pas trop engueulé. Fini pour toi, qu'il a dit le chef.
Le rock, le slam, c'est des musiques contestataires. Ça rend compte par le rythme de la volonté de s'échapper du rythme infernal du travail. Pour Joseph, le rythme infernal du travail, il le reprend dans un abattoir. À l'usine de poissons, il avait enchaîné des expériences différentes. À l'abattoir, c'est comme l'enfer permanent, puisque la douleur physique s'ajoute au reste.
Tu faisais quelque chose avant l'abattoir ? Oui, éducateur, dans le social. Tout ça, puis ben j'ai quitté la région parisienne, épousé celle qui m'attendait. Puis il faut bien bosser. Et toi ? Bah, moi tout pareil. J'étais dans l'armée. J'ai démissionné pour rester près de ma femme et je suis là. Vies minuscules et parallèles. Au-delà de me rire du militaire qui finit bouché, l'inverse serait-il pire ? Mon rire ne dure pas longtemps. Nous poussons des carcasses de bêtes mortes. Regrette-t-il ses opérations extérieures ? Voit-il dans ces bêtes mortes les enfants de Sarajevo et Kigali ? Est-il plus heureux pépère ici, non loin de la mer avec sa femme, ou simplement pousser autant d'animaux morts en poussant mes carcasses ? Bien sûr que je repense à tous ces mômes vivants que j'ai accompagnés qui sont devenus adultes aujourd'hui. Certains sont morts aussi. Mais je suis heureux ici avec mon épouse, plus qu'heureux, non loin de la mer, quitte à charrier des animaux morts. Nous poussons nos carcasses, tout le monde ne fait au fond que de trimballer ses carcasses. Incessant cauchemar martelé, répétitif, quotidien. Pas une sieste, pas une nuit, sans ces mauvais rêves de carcasses, de bêtes mortes qui me tombent sur la gueule, qui m'agressent atrocement, qui prennent le visage de mes proches ou de mes peurs les plus profondes. Cauchemars sans fin, sans vie, sans nuit, des réveils en sursaut, draps inondés de sueur presque toutes les nuits. Parfois je hurle. Toutes les nuits, je sais que je vais emporter l'abattoir dans mes mauvais rêves. Et pourtant, à pousser mes quartiers de viande de 100 kilos chacun, je ne pense pas être le plus à plaindre. De quoi rêve-t-il ? Toutes les siestes, toutes les nuits, ceux qui sont aux abats et qui, tous les jours que l'abattoir fait, voient tomber des têtes de vaches de l'étage supérieur. Prennent une tête par une, la calent entre des crocs d'acier sur une machine idoine, découpent les joues, les babines, puis jettent les mâchoires et le reste du crâne, 8 heures par jour en tête à tête. De quoi rêvent-ils, ceux qui sont au cuir ? C'est ainsi qu'on appelle ceux qui arrachent les peaux des bêtes juste après qu'elles ont été tuées. Les peaux seront ensuite vendues à des tanneurs ou je ne sais qui. Il paraît que ce poste est éreintant, que les intérimaires tournent comme ailes de moulin jour de tempête. Tellement c'est dur, physiquement, moralement, arracher des peaux de vaches toute la journée. De quoi rêvent-ils ceux qui sont au fer, puisque chaque quartier de bêtes est marqué d'un numéro de tuerie ? Identifiant unique, traçabilité. Il marque la chair de la bête après que ceux des cuirs ont fait leur œuvre. Change de numéro à chaque bête. Eh oui, c'est un des postes de l'usine. Des gens passent leur travail à marquer des bêtes au fer rouge et à changer les plaques de numéros entre chaque tuerie. La semaine prochaine, j'ai rencard chez le kiné. Mon corps commence doucement à être ravagé par ce bon mois de carcasse. Tout mon corps, mes muscles, mes articulations, mes lombaires, mes cervicales, le reste de mon corps dont je ne sais pas le nom. Le corps est un tombeau pour l'âme, dit la vieille maxime grecque classique, et je réalise que l'âme est aussi un tombeau pour les corps. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure.
Oui, la douleur physique, les cauchemars, et cauchemars la nuit, peut-être cauchemars le jour. Écoutons le récit d'une journée.
Une journée ordinaire, comme il y en a tant d'autres, tous les jours presque, sans ces micro-événements qui méritent d'être racontés, un nouvel atelier, une saillie d'un collègue, un lendemain de match ou d'élection. Tâchez de raconter ce qui ne le mérite pas, le travail dans sa plus banale nudité, répétitive, des gestes simples, durs, des mots simples. Rien qu'une journée, comme tant d'autres, à pousser des carcasses, ou plus généralement, à faire ce « pourquoi je suis payé ». Je vois la fumée de l'usine avant de quitter la nationale. Elle se mêle à la fumée de l'usine de croquettes animalières qui est juste à côté. Chaque jour, je me dis, c'est comment qu'ils bossent ceux de l'usine de croquettes? C'est quoi leur boulot? J'essaierai bien une semaine pour voir. L'odeur de l'abattoir dès que j'ouvre la portière de la voiture. Odeur de viande de mort et d'industrie à 5h du matin. Qui me donne presque envie d'une grillade avec des frites et un quart de rouge. La passerelle pour entrer dans l'usine est interminable. J'embrasse rituellement par 2 fois, 6 fois mon alliance. Au vestiaire, pisser. Mettre les bouchons d'oreilles, en premier le masque à barbe, enfiler la tenue, la botte gauche avant la botte droite, toujours. Sans doute un souvenir d'une vieille pub avec Zidane pour de l'eau minérale. Et même si je ne serai jamais le champion du monde de l'usine. Descendre dans l'arène. Voir les carcasses à déplacer comme autant d'adversaires, s'étirer, sentir encore l'effet de l'anti-inflammatoire pris avec le copieux petit-déjeuner, attaquer le boulot. L'usine est plus que toute autre chose un rapport au temps. Le temps qui passe, qui ne passe pas, éviter de trop regarder l'horloge. Rien ne change des journées précédentes. Le chef passe salué. Je pousse mes carcasses. Parfois, m'en prends une par surprise dans le dos, poussée par un autre gars. Choc sourd, grognement réfréné, putain de dos qui prend l'axe du mal, cervicale, colonne, lombaire, une charpie de dos. Les bras, ça va, ils se musclent, on dirait, les mains aussi. Ma mère de passage, il y a peu, m'a dit qu'avant j'avais des mains d'intellectuel, avant, que mes doigts ont forci. Je me souviens de la vanne à la con, c'est quoi la différence entre un ouvrier et un intellectuel? L'ouvrier se lave les mains avant d'aller pisser, l'intellectuel après. Je ne me lave plus les mains, pas envie de devenir schizo. On se salue en se serrant la pogne à l'embauche. Comme partout, ici, les serrements des mains sont particulièrement roides. Mes mains ne sont plus broyées à ce contact, mais le dos, putain, parfois elle crie ma colonne. Je l'encourage. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Je pousse les carcasses sans fin. Je ne fais que gagner ma vie, non? Gagner des sous, non? Vendre ma force de travail, voilà, c'est ça. À quand la pause? Je chante pour passer le temps. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Est-ce ainsi que je vis? Et même si de n'y comprendre rien, de n'en plus pouvoir, je travaille. Et j'encule tous les cons du travail social, mon soi-disant vrai métier, qui m'ont recalé à la suite d'entretiens d'embauche. Je suis un travailleur, moi. Je ne passe pas mon temps à boire du café en fumant des clopes, en pérorant sur des situations inextricables. Mais pas de mépris, non. Ne pas enrager. Pause. Boire du café. Fumer des clopes. L'immense passerelle. Mon épouse au téléphone vient généralement de se réveiller. Sa tendre voix avant qu'elle ne boive son café, puis encore la botte gauche au vestiaire, d'abord. J'y retourne. Je repousse mes bœufs. Je sue comme un bœuf. D'autant que l'effet de l'anti-inflammatoire commence à s'estomper. Encore 2 heures et c'est la quille, la débauche. Encore 1 heure et demie, la durée d'un match de foot, et on verra demain, plus qu'une heure, ça devient bon. Je ne pousse plus avec mes bras, mon corps, mon dos. C'est mon tout, mon rien qui pousse. Oui, pour passer le temps, je chante, c'est la fin. Avant de sortir, je vais acheter de la viande à bas coût au supermarché de l'abattoir. De la viande à tomber par terre tellement elle est bonne. À baiser le cul de la Sainte Vierge. Une hampe, une entrecôte, un onglet, une bavette, je ne sais quoi, que je mangerai de retour à la maison avec des patates. C'est comme s'il me fallait me nourrir de cette viande que je pousse tous les jours. Comme s'il fallait qu'elle me donne de la force, qu'elle me donne sa force. Retour à la maison. Le chien me lèche les mains, sans doute encore imprégné du sang des bêtes. Il y a les restes de la nuit d'hier, extraordinaire, ton anniversaire, mon épouse amour, les autant de roses que de bougies sublimes, le cadavre d'une bouteille de champ, tout ce qui n'est pas l'abattoir, où demain il faudra retourner pour une journée ordinaire.
Une journée ordinaire, une succession de journées ordinaires, et en fait, dans un autre chapitre, la succession des journées ordinaires, c'est-à-dire la semaine. Alors, la semaine, c'est comment ? Dimanche. Comme tous les dimanches soirs, je traîne un peu plus que d'habitude, un peu plus que de raison. Je profite encore, juste un peu, même si je sais que je le paierai d'autant plus cher au réveil puis à l'embauche. Dimanche, jour du Seigneur, la semaine, jour des Seigneurs. Lundi. Je ne trouve pas le temps d'écrire, trop de boulot, trop de fatigue. À la maison, le quotidien, le ménage à faire, que je ne fais pas et ça pèse sur mon ménage. Mardi, putain de douleur musculaire au réveil et à l'habillage, le week-end est déjà loin. Aujourd'hui c'est mardi, donc demain c'est mercredi et donc on aura tiré la moitié de la semaine. C'est l'éternel retour des vaches à travailler. Vaches laitières, vaches mixtes. Montbéliarde, normande, vache à viande, charolaise, rouge des prés, limousine, blonde d'Aquitaine. On finit dans les temps. Mercredi. Monotonie, lancinance, douce ou sordide, rien ne change. Les mêmes gueules aux mêmes heures, le même rituel avant l'embauche, les mêmes douleurs physiques, les mêmes gestes automatiques, les mêmes vaches qui défilent encore et toujours à travailler sur cette ligne qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrêtera jamais. Le même paysage de l'usine, le même tapis mécanique, les mêmes collègues à leur place, indéboulonnables, et les vaches défilent, les mêmes gestes. Parfois, c'est rassurant comme un cocon. On va sans faire, on fait sans faire. Vagabondant dans ses pensées, la seule et la vraie liberté est intérieure. Usine, tu n'auras pas mon âme. Je suis là et vaut bien plus que toi. Et vaut bien plus à cause de toi, grâce à toi. Je suis sur les rives de l'enfance. Pas un mort n'était encore venu obscurcir ma vie. Je suis chez ma grand-mère. Sa présence est chaude et éternelle. Demain, elle sera encore là. Je souris en travaillant mes vaches. Au gré du souvenir, pointe un petit malheur. Voilà que la carcasse devient une ennemie. Le geste pourtant automatique suscite l'effort, puis la douleur. Tout est si lourd. Les vaches, mon corps, le travail, voire ma vie, tout oppresse dans ce lieu qui ne change pas, ne changera jamais. Ma grand-mère est morte depuis belle lurette. J'ai bientôt 40 berges et je moisis à travailler dans un abattoir. Le plus souvent, il n'en est rien de ces deux extrêmes. Rien ne se passe que la machine monotone des vaches à travailler. La machinale monotonie des vaches à travailler. Et les comptes, et les décomptes. On compte les heures qui restent à tirer, les minutes avant la prochaine heure, le nombre de vaches que je pousse d'un seul coup, le nombre de crochets que je prends d'une seule main. Les heures que j'ai déjà travaillées dans la semaine, les rails de vaches restant à sortir. On compte sa peine, ses abattis et ses douleurs. Je compte et je recompte. Parce que, eh ben oui, c'est toujours comme chez Brel. Chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas, on ne cause pas, on compte. C'est mercredi et c'est le milieu de la semaine. J'ignore si c'est la monotonie ou les efforts répétés qui fatiguent autant. Alors qu'hier et lundi, ça allait bien, bordel. Et encore 2 jours à tirer. Et demain, cette foutue nouvelle journée de grève, ça va encore être la misère. Ah bah oui, évidemment, les titulaires, ils font grève. Et nous, les intérimaires, embauchent à 4 heures pour pallier le retard. Réveil 2 heures plus tôt, le temps du café et de rouler une clope. On avance sur la route, boire un café à l'abri, le temps des rituels et de la lancinante monotonie. Jeudi. Comme prévu, le réveil pique. Fort, fort, fort. Comme la semaine dernière, une équipe de tâcherons supplée les titulaires habituels. Étrangement, les grévistes de la semaine dernière arrivent à l'heure de l'embauche habituelle. Les tâcherons s'éclipsent, ça bosse mollement, comme s'ils étaient à moitié en grève, à moitié au boulot. Ils ne seront pas de retour après la pause. En fait, j'apprends par un collègue non gréviste qu'ils ont fait leurs 4 heures de travail, ce qui correspond au nombre d'heures sup faites dans la semaine. Comme ça, ils n'auront aucune perte de salaire, ce que j'estime vraiment subtil. Et les tâcherons reviennent. Le temps est long, foutrement long, s'étire à l'infini. Un casque rouge passe et me demande si je peux bosser samedi. Les samedis matins travaillés ne sont jamais obligatoires, mais sont comptés pour 3 heures supplémentaires de paie, même si on ne bosse qu'une heure. Alors, je réponds oui. Et les 2 heures qui restent semblent encore plus longues, avec un week-end à l'agonie. La fin de la journée se passe comme une fin de merde. Je pensais en avoir fini du boulot demain, en sachant qu'aujourd'hui était la plus grosse journée, mon cul. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que nos chagrins, il s'en fait des manteaux. J'en suis à fredonner du Carla Bruni, alors que je rêverais d'être en grève. C'est bien pire, la porie de l'univers et de ses vaches sacrées. Vendredi. On donne ce qu'il nous reste de force pour terminer plus vite. Effectivement, l'histoire est pliée une grosse demi-heure avant le terme. On en profite pour traîner dans l'usine, pour filer un coup de main aux collègues, dans les autres secteurs, pour les avancer un peu. Vendredi après-midi, à la maison, ça pourrait être une fête, mais jamais. Je suis irritable, le mot est faible, irascible. La vendredite, en serions-nous encore aujourd'hui avec mon épouse, comme une maladie qu'on saurait enfin nommer. Comme si toute l'inconsciente pression accumulée, les douleurs du corps et la fatigue accumulées, l'ennui du temps qui ne passe pas accumulée, les jours d'usine accumulés, tous les jours d'usine, tous ceux depuis mon entrée dans la machine, voici déjà plus d'un an, et ma sortie que je ne vois décidément pas venir. Le fait de devoir renquiller lundi pour une autre semaine, le fait de devoir se reposer le week-end comme si la sempiternelle problématique qui veut que la tête tienne, sinon le corps lâche, et que le corps tienne, sinon la tête explose. Comme si tout explosait, justement, à chaque fin de semaine. Voilà, retour au monde des vivants. Mais j'ignore encore comment franchir ce Styx du vendredi sans payer mon obol de colère. Et samedi, une grosse heure de taf, 3 heures payées, la semaine est bien terminée. Demain, c'est dimanche. Demain, on profitera bien encore un peu de la liberté des vivants. Demain, on rechignera encore à Eolito, étant pourtant certain qu'on le paiera cher, lundi au réveil, lundi à l'embauche. Il sera toujours temps pour une nouvelle semaine. Encore une semaine. La journée, la semaine, des rythmes terribles donc. Ces rythmes terribles de la vie à l'usine, l'auteur y trouve pourtant des dérivatifs. L'écriture, on l'a vu, la pensée pendant le travail, et aussi pendant le travail, la chanson. Il nous a parlé de Trenet, il nous parle dans bien des pages de toutes ces chansons auxquelles il pense qu'ils viennent à l'esprit et qu'il soutiennent pendant son travail. La chanson à laquelle il pense, lui, les chansons des autres aussi. Finalement, c'est vraiment une façon de survivre. Et pour survivre et pour conclure, l'auteur nous parle de l'usine comme d'une psychanalyse, l'usine comme un divan, enfin peut-être.
Je dois à l'usine le fait de ne plus éprouver de crise d'angoisse, plutôt non. Je date de mon entrée à l'usine le fait de ne plus éprouver de ces foutues crises d'angoisse, terribles, irrémédiables, l'infini et son vide qui défonce le crâne. Font monter la sueur froide, le vertige, la folie et la mort. Je date de mon entrée à l'usine le fait de ne plus prendre de traitements médicamenteux, psychotropes, anxiolytiques, stabilisateurs, antidépresseurs. Longtemps, j'ai eu peur de devenir fou, bien longtemps. C'était là ma principale angoisse, la mère de toutes, celle qui générait crise et crise comme autant de symptômes, autant de souffrances aussi quotidiennes qu'invivables. Peut-être l'épreuve de l'usine s'est-elle substituée à l'épreuve de l'angoisse. Ce serait le lien le plus logique. Devoir tenir jour après jour, nuit après nuit, heure après heure. Un simple déplacement de symptômes. Ce n'est plus la tête qui souffre, mais le corps. On souffrira toujours bien assez comme ça. Surtout, Bien après que j'ai arrêté l'analyse lacanienne, l'usine m'a renvoyé en pleine gueule mes heures et mes heures de divan. Le parallèle est évident, tout au moins me le semble-t-il. Que viens-je faire ici? À quoi bon? Pourquoi ces telles pensées me viennent-elles à ce moment précis? Pourquoi parler? Pourquoi se taire? Pourquoi écrire? Pourquoi? La fonction de l'analyse est d'être allongé sur un divan à devoir parler. La fonction de l'usine est d'être debout à devoir travailler et se taire. Et paradoxalement, vu le temps qu'on a de penser à l'usine quand le corps travaille, mes angoisses auraient dû sortir encore plus vivaces. Ce n'est pas ma place, mon boulot, ma vie. Qu'est-ce que je fous là avec toutes mes années d'études, ce que j'ai lu, écrit ou compris du sens du monde? Mais non, bien au contraire. L'usine m'a apaisé comme un divan. Si j'avais eu à devenir fou, c'eût été dès les premiers jours aux crevettes, aux poissons panés à l'abattoir. C'eût été la nuit du tofu. La fin de l'usine sera comme la fin de l'analyse. Elle sera simple et limpide comme une vérité, ma vérité. Je dois me coltiner encore cette épreuve tant que le travail ne sera pas terminé, ou ce travail tant que cette épreuve perdure. Elle sera, il sera. Et en écrivant ces mots comme on parle à l'oreille et au cerveau bienveillant d'un analyste, je me rends compte que non. Je ne dois rien à l'usine, pas plus qu'à l'analyse. Je le dois à l'amour, je le dois à ma force, je le dois à la vie.
Ouais, c'est une belle conclusion. On meurt à l'usine, enfin on meurt au travail de temps en temps, et quelquefois on en vit, mais finalement la vie, on la construit soi-même. C'était l'usine en Bretagne, pas toujours très gaie, et donc la semaine prochaine, on repart, on essaye vraiment de repartir vers l'Algérie avec Kateb Yassine. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.